RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Allez, bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler du rapport 2023 de l'INIR, l'Instance Nationale de Reconnaissance et de Réparation pour les Personnes Victimes de Violences Sexuelles au sein de l'Église. Je vous propose jusqu'à 11h d'entrer dans les coulisses d'une cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels et autres blessures en Église. Alors les noms sont un peu différents en fonction des diocèses. Ça va être l'occasion de découvrir ça avec nos deux invités et puis toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Vous êtes victime, vous avez déjà contacté une cellule d'écoute. Venez témoigner, nous dire si vous avez le sentiment que ça a servi à quelque chose. Et si vous faites partie d'une cellule d'écoute d'un diocèse en France, bah venez nous dire là aussi comment ça se passe, comment vous avez été peut-être formé aussi pour écouter les victimes. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, deux invités de la même cellule. Je commence avec vous, Eudes Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints en direct des studios de Chambéry et on remercie l'équipe de Savoie qui vous accueille ce matin. Vous êtes donc membre de la cellule d'écoute de Savoie. Vous êtes également psychothérapeute et avec nous, vous connaissez Annick Van Stevendel. Bonjour Annick.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF, coordinatrice de la cellule d'écoute de Savoie. Pourquoi cet engagement, Annick? Je commence avec vous dans cette cellule d'écoute.
Pourquoi cet engagement? Ben parce que ces sujets d'abus et tout ont toujours été un peu quelque chose qui m'intéressait, parce que surtout quand on s'est mis à en reparler dans les années 2000, j'ai réalisé, enfin tout en réfléchissant et tout, en disant que finalement c'était un sujet qui en fait empoisonnait le monde entier depuis des milliers d'années et qu'il était temps d'essayer de faire quelque chose. Et puis j'avais rencontré plusieurs personnes dans le monde entourage qui avait été victime, oui. Et je me rendais, moi j'ai une formation d'infirmière même si j'ai pas beaucoup travaillé, et je me rendais bien compte que c'était quelque chose qui touchait les gens profondément. Voilà.
Et une cellule d'écoute, en tout cas dans le diocèse de Savoie, qui a été créée en 2020, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire avant le rapport de la CIAZ sur les rapports, sur les abus sexuels dans l'Église.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire dans les années 2018, moi je sais que j'ai commencé à être un peu agitée. Je me dis, mais comment on fait? Il faudrait qu'on aide l'Église, parce que je suis bien engagée dans l'Église depuis longtemps.
Vous sentiez qu'il y avait quelque chose, quelque chose de nécessaire
tout
à faire.
Ouais. Alors j'avais commencé à solliciter l'évêque en lui racontant deux ou trois bricoles, d'autant que moi j'habite dans la rue, on a été touché par le problème de Nordal Hollandais, parce que c'est mon voisin, donc je l'embêtais pas du tout, mais je voulais, je me disais, mais c'est aussi dans la société, donc si l'Église elle bouge un peu, on va aider tout le monde. Moi c'était un peu ça, Et puis donc du coup il y a eu aussi ensuite le film Grâce à Dieu qui a beaucoup réveillé les Savoyards, et donc du coup ils ont aussi interpellé, il y a eu des réunions, et à la suite d'une rencontre où il y a eu plusieurs personnes victimes qui ont pu témoigner, l'évêque nous a dit, bon alors comment on s'y prête, venez m'aider parce que moi j'ai un peu et puis on a démarré et on a pu démarrer donc la cellule d'écoute en 2020.
Eudes Bouvier, vous l'avez rejoint quand cette cellule?
Eh ben exactement en même temps, dès le début, lors de cette grande réunion où j'avais souhaité assister, et puis après s'est formé rapidement un groupe pour le suivi de tout cela.
Vous, c'est votre profession de psychothérapeute qui vous a motivé à rejoindre cette cellule?
Alors moi j'ai un peu une double casquette en fait, je travaille aussi pour l'Église le matin, mais dans la partie plus administrative, et effectivement l'après-midi je suis psychopraticien, donc j'ai un cabinet de psychothérapie, j'accompagne différentes personnes, mais évidemment aussi notamment des personnes qui ont été victimes d'abus. Donc j'avais déjà la conscience de tous les dégâts que ça peut entraîner, de toutes les difficultés à parler ou à témoigner, voire à porter plainte, c'est encore autre chose. Donc c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur, et en plus dans l'Église je me suis dit là faut y aller, faut faire quelque chose.
Faut faire quelque chose, c'est un peu ce que vous avez dit, Annick.
Ah oui, tout à fait.
Faut se bouger.
Ah oui, oui, ouais. Oui, il faut bouger parce que c'est trop important. J'ai reçu aussi du fait que j'étais un peu sensibilisée par ça. Petit à petit, je suis arrivée à en parler parce que c'est des choses qui sont pas simples, hein, pour parler de cette intimité. Et donc, du coup, quand j'ai eu des personnes qui, du coup, se sont confiées et que j'ai vu, par exemple, certaines qui ont dit, j'en avais jamais parlé à quelqu'un. Ouais. Alors, maintenant, je peux mourir. Et je me suis dit, c'est bien ça, ce que j'avais ressenti, que c'était quelque chose de drôlement important, qu'il fallait qu'on puisse déposer. Et puis surtout, aider aussi même les agresseurs pour que quelque part, ça s'arrête un jour, un peu, quand même.
Voilà. Des cellules d'écoute qui existent dans les diocèses, presque tous les diocèses d'ailleurs, même si certains, je crois, n'ont pas encore pu en mettre en place. C'est devenu presque une obligation, d'après vous, Annick ?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, comme il y a plein de choses qui se sont installées, comme l'INIR, oui. La conférence des évêques a quand même beaucoup travaillé. Voilà, je ne sais pas si chaque diocèse a besoin vraiment d'une cellule, mais ce qui est important, c'est que ils aient une cellule d'écoute, même si c'est pas dans leur diocèse même, oui. Mais proche, parce que je pense que oui, effectivement. Tout à l'heure, j'ai écouté votre émission en arrivant ici,
et
j'entendais bien. Il y a encore des jeunes qui continue, et donc le problème continue, même s'il est moindre sans doute, et donc des cellules d'écoute, on en aura toujours besoin, d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas forcément une par département, par diocèse.
J'aimerais qu'on écoute Catherine au 04 72 38 20 23. Bonjour Catherine, est-ce que vous êtes là? Alors on n'a pas Catherine. Marie-Annick, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonjour. Mmh.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, alors j'étais très contente d'entendre effectivement l'émission précédente parce que ça m'a éclairée sur un certain nombre de points et dont je me posais notamment l'affaire de l'argent là, réparation financière. Je me disais de toute façon une réparation financière ça n'effacera jamais tous les dégâts de toute une vie parce que j'étais violée à 25 ans et j'en ai 78. Enfin, je dois dire maintenant, puisque c'est la cellule d'écoute, que j'étais très très contente de l'écoute de la personne responsable de cette cellule dans mon département.
Oui.
Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée parce que au départ, on se dit mais est-ce qu'on va être reçu, comment, enfin bref, elle m'a vraiment bien bien écoutée et elle m'a conseillé d'envoyer une lettre à l'évêque, ce que j'ai fait. Et il m'a donc répondu en janvier 2022 qu'il m'orienterait vers l'INIR. Mais seulement, il n'a pas vu, dans ma lettre, c'était bien précisé que j'avais été violée à 25 ans. Donc, j'en ai 78. Donc finalement, c'est dommage parce que, en fait, il m'a orientée vers l'INIR. Il n'a pas envoyé mon dossier. Or moi, je pensais que dans une cellule d'écoute, il fallait simplement déposer son témoignage et que le reste, le département faisait le reste du travail.
Oui.
Bon, alors ceci dit, je me retrouve en janvier 2024, avec une autre lettre de l'évêque en me disant qu'il pensait que je m'étais orientée vers l'INIR. Ouais. Donc j'ai téléphoné tout de suite à l'INIR et qui m'a répondu, nous ne prenons pas en charge l'indemnisation des personnes majeures. Ce sera la commission plénière des évêques qui aura lieu en mars 2024 qui va étudier le problème. Alors voilà, j'étais contente de la cellule d'écoute, mais pas trop contente.
Il manque la fin du processus, on entend Marie-Annick dans votre parcours. Merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de témoigner et donc d'évoquer la cellule d'écoute de Rennes. Voilà, c'est très bien au moins de savoir qu'il y en a dans ce diocèse. Eudes Bouvier, est-ce que ça fait partie des témoignages que vous recevez beaucoup à la cellule d'écoute de Savoie?
Alors sur le nombre, c'est un peu complexe. On se pose souvent la question entre nous, en supervision, est-ce qu'on en a assez, est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'on en a pas suffisamment des appels. À la fois on aimerait ne pas en avoir du tout, ça veut dire que ça n'aurait pas existé, et à la fois on a quand même envie d'en avoir pour que les personnes puissent témoigner. Ce que je voudrais dire à Marie-Annick là, qui vient d'appeler, c'est qu'effectivement l'INIR s'occupe pour les personnes mineures, mais il y a un groupe de réflexion actuellement pour aussi une indemnisation des personnes majeures. D'ailleurs, il y a une personne à l'autre sujet de l'écoute qui fait partie de ce groupe, donc c'est en train de se créer, et ça devrait arriver aussi pour les personnes majeures. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué entre les sigles, les noms, tout ça, voilà, chez nous. Les témoignages, ils sont à la fois variés et à la fois ils se ressemblent, je dirais. Oui. Le plus important, c'est d'abord que nous soyons, nous, à l'écoute, quel que soit le témoignage, quelle que soit la façon dont la personne veuille le faire passer. Des fois, elle est prête, des fois, elle n'est pas prête. Des fois, il y a le rendez-vous et puis la personne ne vient pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pris on a tout un protocole chez nous, et on a pris la décision de recevoir, comme on reçoit aussi au nom de l'Église, de recevoir à deux un homme et une femme. Donc on est toujours par binôme, et donc il y a 5 écoutants dans notre cellule et puis 2 personnes responsables qui ne sont pas écoutantes.
Annick Van Stevendel, on vient d'entendre ce témoignage de Marie-Annick, un témoignage de terrain. On sent quand même que c'est un processus qui est relativement long, où il y a des échanges de lettres, d'informations également. Quel est votre pouvoir, pardon d'utiliser ce terme, j'aime pas trop, mais dans la cellule d'écoute de sa voix, est-ce que vous avez un pouvoir vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des procédures que vous pouvez enclencher?
Alors, le pouvoir, moi, je veux dire, ça serait le pouvoir de se mettre à leur côté et d'essayer de voir tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour les aider. Oui. Donc, je pourrais dire à Marie-Annick, c'est sûr qu'elle a dû être déçue, mais nous aussi, au début, on n'avait pas compris exactement jusqu'où pouvait aller l'INIR et tout. Bon, les choses sont en train de se faire, donc c'est la lenteur, c'est une fois de plus attendre, patienter. Mais je crois que quand l'Église s'est mise en route, on s'en est bien rendu compte quand les assemblées plénières se sont succédées, de voir comment certains évêques, comme nous, simples laïcs, certains n'avaient aucune idée, ou vraiment on n'avait pas réalisé l'ampleur des dégâts que ça pouvait faire, tous ces problèmes sexuels ou d'emprise. Et donc, il faut se former, il faut comprendre la réalité, il faut accepter que tout ne se fasse pas en 2 temps, 3 mouvements. Mais moi, je crois que j'ai confiance dans notre Église qui avance.
Qui vous a formé pour écouter?
Alors, moi, je ne suis pas écoutante, je ne fais pas partie des écoutantes, mais j'avais une formation.
Vous êtes la coordinatrice.
Une coordinatrice. Ouais. Mais ceci dit, il arrive qu'en fait, les gens me téléphonent directement, donc je suis très contente des formations que j'ai faites. Donc, les personnes, en fait, qui sont arrivées dans la cellule et qui se sont manifestées parce qu'elles étaient écoutantes, elles avaient déjà des formations elles-mêmes, soit qu'elles étaient thérapeutes, soit on a
comme
aussi...
Eudes,
on en a 2 comme ça, ou 3 même, et puis soit des personnes qui ont fait, Eudes, rappelle-moi...
Leclerc.
Qui font partie de la formation Leclerc. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est des personnes qui avaient une formation. Et autrement, nous, dès qu'on a commencé, dès qu'on a essayé de créer la cellule avec l'autorisation et la réflexion de l'évêque et d'autres personnes, eh bien, on s'est formé, on a été en lien avec la conférence des évêques, on a beaucoup lu, on a regardé les articles dans la Croix. Certains d'entre nous sont allés faire d'autres formations. Eudes, je te donne le relais, la formation que tu as fait avec Bernadette.
Oui, il y a une association qui s'appelle SVS, Stop aux violences sexuelles, qui a été créée, pas par l'Église, mais par des élus d'ailleurs. C'est comme ça que moi j'avais rejoint cette association. Elle est dans chaque département, donc SVS, Stop aux violences sexuelles. Et ils font une formation qui s'appelle Les Bases, qui dure 2 jours et qui est destinée à des écoutants. Il y a aussi des gendarmes, des avocats, des assistantes sociales, etc. Qui est vraiment une très bonne base. Et puis il faut savoir maintenant aussi sur notre diocèse, nous on a une cellule de veille qui organise aussi 3 jours de formation par an. C'est pas pour les écoutants, mais c'est plus pour les intervenants, les clercs, etc. Donc les formations, oui, elles existent aussi à l'extérieur. Maintenant, pour faire de l'écoute, il faut quand même avoir une base.
Oui.
Je pense que c'est important qu'il y ait soit des infirmiers, soit des thérapeutes.
Ça ne s'improvise pas.
Oui, ça s'improvise pas et on l'a vu dans le film Grâce à Dieu, sinon ça peut même être mal fait en fait. Donc faut y aller quand même tout en douceur.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà. Comme je le disais à votre collaboratrice là, on est en rupture très violente avec notre fils, notre second fils, suite aux révélations qu'il nous a faites il y a 3 ans. Notre fils a 49 ans aujourd'hui. Révélation qu'il nous a faite il y a 3 ans, comme quoi, quand il était adolescent, il avait été abusé lors d'un camp, après un camp plutôt, organisé par le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. Hein. Mmh. Il a rencontré un directeur, avec qui il s'est d'ailleurs très bien entendu la première année et la deuxième année, et c'est après seulement, à l'occasion de vacances au Puy du Fou, qu'il a accaparé notre fils et qu'il a abusé de lui. Alors pendant 30 ans, notre fils nous a rien dit, et il s'est réveillé, c'est l'amnésie post-traumatique, ça s'appelle, je crois, hein, et oui. Il nous en veut à mort, du coup, tout d'un coup, de l'avoir mis dans ce camp, dans ce camp de vacances, et puis il nous en veut d'être encore attaché à l'Église catholique, à la limite, on est responsable quoi, de ce qui lui est arrivé. Sur le coup, ça nous a complètement assommés. Hein. Il rejette évidemment à 100% l'Église et il comprend même pas qu'on soit encore dedans. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que de croire en Dieu, Jéhovah ou Vishnu, c'était une chose, et puis accepter la façon dont l'Église fonctionne, c'est autre chose, évidemment. Les institutions sont condamnables à 100%. Voilà, donc on est en rupture avec lui, on lui écrit des lettres, il nous fait des réponses incendiaires, et il répond même pas à nos questions, on sait pas trop quoi faire. Donc on est un peu perdu, et même complètement perdu. On a, dans un premier temps, on a écrit, comment ça s'appelle l'organisme d'indemnisation de...
L'INIR.
Peut-être, c'est possible, oui. Je sais plus si c'est l'INIR ou oui, peut-être, oui. Qui nous a répondu, c'était au téléphone peut-être simplement, je sais plus très bien, que le 30 ans était passé, donc c'était fini. Ensuite, on s'est retourné vers la direction du MEJ.
Ouais. Hein.
Alors là, on a eu, comment elle s'appelle la dame, je sais plus, madame Lassagne, oui. Lassagne, directrice du MEJ, Sophie Lassagne, très gentille, qui nous a dit, ok, on va regarder ce qui se passe. Mais depuis le début janvier, alors on a des allers-retours de mails, mais ça avance pas du tout, quoi. Il a fallu tout simplement qu'il fasse des recherches sur Internet pour connaître le parcours du prédateur. C'était pas très agréable. Hein. C'est un gars qui était encore laïque hein, au moment de quand il était directeur des camps de vacances, hein, et qui est devenu prêtre que par la suite. Hein, et quand j'ai regardé un peu son pédigré sur Internet, effectivement, il a fait de la prison plusieurs fois. C'est un pédophile multirécidiviste, qui était baladé, comme on s'en doute, de diocèse en diocèse, évidemment, comme d'habitude. Hein, voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il vient, mais ça m'est complètement égal.
Mais on entend, en tout cas, Pierre, alors c'est un témoignage très intime, et merci beaucoup, de prendre la parole ce matin pour nous en parler. Je ne sais pas si on va pouvoir vous donner des éléments de réponse. Annick, je me tourne vers vous en ayant entendu ce témoignage de Pierre, qui lui est en rupture donc avec son fils, et le fils qui est vraiment concerné par des abus. Qu'est-ce qu'on peut dire à Pierre? Est-ce que ça rejoint aussi une auditrice qui a appelé dans la première partie de Je pense donc j'agis, qui nous parlait de son cousin, mais c'est un peu compliqué aussi de parler à la place des autres, Annick.
Voilà. Alors c'est ce que j'ai dans ma tête en entendant Pierre et puis la personne tout à l'heure aussi,
Geneviève.
De dire que c'est justement, on peut être agité parce qu'il y a ce que ressentent les victimes, mais il y a aussi ce qu'on appelle la souffrance des collatéraux. Et là, je crois que Pierre et son épouse doivent être dans cette situation, c'est-à-dire les proches qui sont eux aussi complètement impliqués dans la souffrance de leur fils, d'autant plus qu'il les rend responsables. Et moi, j'invite peut-être Pierre à s'il pouvait d'abord prendre contact avec la cellule d'écoute de son diocèse, s'il y en a une, parce que peut-être que d'être écouté et la cellule cellule d'écoute pourrait avoir des idées à lui suggérer pour continuer d'avancer, puisque Pierre nous dit qu'il est un peu perdu. Et puis, il y a aussi d'autres associations, comme France Victimes aussi, qui sont prêts à aider aussi ces personnes pour avancer, parce que effectivement, il y a ce moment, on est confronté à des choses auxquelles on n'avait pas pensé, donc on n'a pas forcément la recette idéale qui va pouvoir aider ces personnes et ces familles. Voilà.
Voilà ce qu'on peut vous répondre, Pierre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. Eudes Bouvier, alors, c'est une question que je voulais vous poser. Qui peut vous contacter à la cellule d'écoute? Est-ce que ce sont uniquement les victimes ou comme on l'a entendu, peut-être les parents, voire les grands-parents ou des proches de victimes?
Donc en fait, ça fait 4 ans que notre cellule d'écoute fonctionne et on a été amené à évoluer. On a un protocole, mais on a été amené à le modifier et à évoluer parce qu'au départ, on savait pas qui allait nous appeler. Et effectivement, on imaginait que c'était des victimes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des souffrances importantes, ce qu'on appelle nous des victimes collatérales. Ça peut être un frère, une sœur. On a entendu Pierre, donc un papa. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, puisque ça se déclenche des années après, le mari, la femme. En tout cas, il y a des victimes collatérales. Donc nous, en Savoie, on a décidé, je connais pas le fonctionnement de toutes les cellules, même si on se voit de temps en temps à Paris, mais on a décidé de pouvoir accueillir aussi les victimes collatérales. L'idée d'une cellule d'écoute, c'est pas de trouver des solutions, ni financières, ni quoi que ce soit. Ça c'est le boulot de l'INIR. L'idée d'une cellule d'écoute, c'est que les personnes puissent enfin être entendues et simplement reconnues comme victimes. Ou victimes collatérales, mais sont aussi des victimes. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de notre job.
Oui, Annick, ça a de l'importance.
Ah oui. Ouais. Parce qu'effectivement, on a eu beaucoup d'appels comme ça et c'était pas forcément pour une victime elle-même, mais c'était les gens autour et qui voulaient être écoutés. Et on se rend bien compte que de prendre du temps avec la personne, ça aide. Là, tout à l'heure, c'est pareil, j'entendais sur la fin le témoignage de cette personne qui avait été, qui a eu des abus quand elle était toute petite, elle a presque 80 ans aujourd'hui, et elle dit bien comment c'est important à un moment d'accepter, de reconnaître que les autres reconnaissent son histoire. Voilà, ça. Et l'écoute, vraiment, c'est fait pour ça.
Bonjour Catherine.
Oui, bonjour. Merci de me prendre au téléphone. J'avais une question. Moi, j'ai subi une agression sexuelle, mais qui n'a pas été. Ça n'a pas été un viol, mais une. Je veux dire, une tentative de la part du prêtre. Et alors, j'étais majeure. Et alors, voilà. Donc, j'étais extrêmement choquée par ce qui s'est passé. Bon, là, maintenant, j'ai du recul par rapport à tout ça, évidemment. Parce que j'ai plus de 60 ans. Ce prêtre exerce toujours. Moi, j'ai fui cette église, évidemment. Et oui. Donc, je voulais savoir que l'église ait connaissance de cela. Je ne cherche pas d'indemnisation financière, ce n'est pas mon but, mais que cette personne ne puisse plus nuire, dire. J'en ai jamais parlé, donc. Ça reste quand même très mauvais souvenir.
Ouais. Mais écoutez, Catherine, merci en tout cas d'en parler, peut-être pour la première fois ce matin dans Je pense donc j'agis. Merci beaucoup de prendre la parole. Eudes Bouvier, je me tourne vers vous pour répondre à Catherine.
Je voudrais remercier Catherine pour son témoignage et on le voit aussi dans le témoignage des victimes. Elle témoigne des fois pas pour elle, mais elle dit ce prêtre, il est encore vivant, donc peut-être il peut encore faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est très très important de pouvoir témoigner dans ces cas-là. La plupart du temps, nous, c'est des témoignages qui arrivent 30 ans, 40 ans, 50 ans après, donc les auteurs sont décédés, mais pas tout le temps. Et quand c'est le cas, quand l'auteur n'est pas décédé, je vous invite vraiment à rejoindre la cellule d'écoute de votre diocèse, ou si vous ne les connaissez pas, ou une autre cellule autour, parce que c'est une autre partie de notre travail, c'est que nous, une fois qu'on a écouté les victimes, qu'on les a reconnues en tant que victimes, on fait aussi ce qu'on appelle une fiche sur l'auteur, qu'il soit décédé ou pas, Et cette fiche, elle est transmise à l'évêque avec les faits, ce qui peut, bah, quand l'auteur est vivant, ben, bah, ça va permettre de peut-être faire quelque chose, faire attention, mettre des mesures conservatoires, retirer si nécessaire le prêtre ou autre auteur. Hein, on parle de prêtre, mais nous dans les témoignages, voilà, c'est parfois des catéchistes, hommes ou femmes, voilà. Les auteurs, ils sont multiples, y compris dans l'Église. Mais oui, si vous allez témoigner, et vous pouvez aussi demander à rester anonyme si vous le souhaitez, hein, mais si vous allez témoigner devant une cellule d'écoute, le travail de la cellule d'écoute est aussi de faire cette fiche et de faire en sorte que parfois c'est très compliqué parce que la personne elle a pu changer de diocèse, mais du coup de transférer, c'est ce qu'a voulu la Conférence des évêques de France et c'est ce qui se fait de plus en plus, ce qui se faisait pas forcément avant, de transférer les dossiers pour essayer de remonter, d'informer tel diocèse où la personne a été, d'en informer un autre pour pouvoir dire bah, finalement oui, cette personne elle est auteur et souvent malheureusement, si on fait rien, elle est multirécidiviste.
Et je vous confirme, hein, Catherine, il y a une cellule d'accueil et d'écoute dans le diocèse de Lille où vous habitez. Donc ça peut avoir de l'intérêt. On entend Catherine pour elle, mais aussi pour d'autres personnes, de faire remonter des informations. Mais c'est à l'évêque ensuite de prendre la décision. C'est-à-dire que jamais la cellule d'écoute va aller en parler, je sais pas, à la police ou à la justice. Annick.
Alors effectivement, les cellules d'écoute ne vont pas en parler à la cellule, ne vont pas en parler à la police. Si la personne souhaite le faire, on peut l'accompagner, mais c'est vrai que c'est plutôt France Victime qui s'occupe de ça. Oui. Alors c'est pas qu'on veut botter en touche ou renvoyer vers France Victime, hein, parce qu'il faut savoir qu'en fait on est partenaire avec France Victime et que la Conférence des évêques de France finance cette association. Donc on est vraiment partenaire, mais ils ont plus l'habitude de la loi, parce qu'il faut savoir aussi, moi en tant que thérapeute, j'accompagne parfois des personnes qui vont en justice, mais c'est aussi parfois très douloureux. L'avocat adverse va dire mais pourquoi vous avez pas dit non, pourquoi vous témoignez que 30 ans après. Ben, voilà, il y a toutes ces difficultés là. Par contre, au sein du diocèse, nous, la cellule d'écoute, on va évidemment interpeller l'évêque pour qu'il fasse quelque chose. Et oui, il va faire quelque chose si l'auteur est toujours vivant, bien sûr. Oui.
Même si ça peut prendre du temps, Annick. Parfois, dans certains cas, dans certaines situations, est-ce que l'évêque est rapide pour faire remonter des informations?
Alors écoutez, oui, avec en tous les cas...
Avec votre évêque.
Ouais. Alors notre nouvel évêque, à mon avis, oui, parce que il est complètement impliqué dans cette problématique, puisqu'il a été engagé...
Thibaut Verny, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. C'est Thibaut Verny. Mais en fait, il est tellement pris par plein d'autres choses, donc on n'a pas encore beaucoup travaillé avec lui, mais le peu qu'il nous a dit, il nous a vraiment bien soutenus avec plein de choses. Et l'évêque qu'on avait avant, puisqu'on avait Monseigneur Ballot, on a pu témoigner qu'une ou deux fois, on lui a confié comme ça des dossiers et qu'il était intervenu rapidement de manière à ce que, comme dit cette dame, les personnes, puisqu'il y a une enquête qui soit faite et que les personnes puissent ne pas récidiver, et en tout cas qu'on puisse arrêter les choses. Voilà, donc.
Ouais. Et ça, les écoutants sont formés dans la cellule d'écoute pour dire bah là, on va pas pouvoir faire grand chose pour vous. Par contre, ces informations, on va les faire remonter tout de même.
Voilà. Alors oui, moi là c'est pareil, j'ai envie de repasser à eux parce que c'est eux qui interviennent. Alors en fait, si vous voulez, comme nous on est deux à ne pas écouter, mais avec les autres membres de la cellule, on se voit une fois par mois. Hein. Non seulement plus on a une supervision une fois par trimestre et ça nous permet de reprendre et donc d'affiner et d'essayer de répondre au mieux à toutes ces demandes et à ce qu'il faut faire. Voilà. Laisse eux pour dire.
Parfois c'est difficile de répondre, Eudes Bouvier, c'est difficile d'apporter des solutions ou des pistes.
Oui, et puis je suis pas sûr qu'au départ ça soit notre rôle. Ouais. C'est vrai qu'avec la création de l'INIR, maintenant il y a la partie financière qui rentre en compte. Et avant c'était pas le cas. On parlait pas de réparation financière. Pour moi, la première réparation, c'est la réparation d'être entendu enfin. Et d'être reconnu, c'est pour ça que la personne, nous, une fois qu'elle a rencontré la cellule, si elle le souhaite, elle peut aussi rencontrer l'évêque. C'est ça le plus important. Ouais. Après, c'est vrai que maintenant, on reçoit les gens plusieurs fois, alors qu'au tout début, on ne les recevait qu'une fois. Ouais. On les reçoit maintenant plusieurs fois si elles ont besoin d'accompagnement pour d'autres démarches.
Et on va continuer d'en parler, eux et Annick, ce matin dans Je pense. Donc, Jagi, on va marquer une pause. Vous continuez de nous appeler, tout comme Pierre et Catherine, au 04 72 38 20 23 pour apporter vos témoignages. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et ce matin, on vous fait découvrir les coulisses d'une cellule d'écoute d'un diocèse en France pour les abus sexuels dans l'Église. Vous avez la parole pour en témoigner. Si vous êtes victime, si vous avez déjà contacté une cellule d'écoute, venez témoigner. Si vous faites partie d'une cellule d'écoute dans un diocèse, venez nous dire un peu comment ça se passe, comment vous avez été formé. 04 72 38 20 23 pour venir témoigner à l'antenne dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, ou alors directement par mail à l'adresse direct@rcf.fr. La tendresse, c'était une chanson de Bourvil, reprise ici par Margot Joubert.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h, Annick Van Stevendal, vous êtes coordinatrice de la cellule d'écoute de Savoie. Et à vos côtés, Eudes Bouvier, psychothérapeute et également membre de cette cellule d'écoute de Savoie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Oui, j'appelais en fait car j'ai appris lors du décès de ma mère qui avait 55 ans, officiellement j'en ai, donc moi j'en avais 35, donc on était assez jeunes toutes les deux. Hein. J'ai appris au moment de son décès dans des mails que j'ai pu consulter qu'elle avait été victime d'abus par donc un prêtre de l'église qu'elle fréquentait. Il y avait eu un jugement, enfin en tout cas, il y a eu c'était des échanges avec un avocat, donc j'ai été assez sous le choc quand j'ai vu ça. Donc voilà, actuellement, j'ai plus accès à cette boîte mail, évidemment. Donc j'ai juste eu connaissance façon fulgurante sur cette situation. Et voilà, c'est vrai qu'en écoutant votre émission, voilà, je me suis demandé si effectivement une cellule d'écoute ou en tant que moi, sa fille, et ne pouvant parler, enfin du coup, je peux plus en parler à elle, je peux plus poser de questions.
Oui.
Voilà, pouvoir qu'est-ce qu'une cellule d'écoute peut faire, et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une colère et puis aussi une rupture dans de la confiance, quoi, qui peut, même si on reste confiant, mais voilà, ça a eu un impact en tout cas sur moi, pour ma mère, et voilà.
Ouais, ça a dû remuer des choses, Marie, on l'imagine. Est-ce que vous avez fait des copies des mails que vous avez lus?
Je ne sais plus si dans dans l'émotion je l'avais fait ou pas. Je ne sais plus.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir témoigné. Je pense que ça a un peu une importance de poser cette question. Annick, je me tourne vers vous. Alors là, c'est toujours le même cas de figure. Hein. Voilà, c'est pas une victime, Marie, mais par contre, c'est la fille d'une victime. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Voilà. Bah écoutez, moi j'ai entendu, bonjour Marie, et je vous conseille effectivement, peut-être si vous avez la possibilité, c'est pas trop compliqué, de rejoindre la cellule d'écoute de votre diocèse.
En Isère.
En Isère, ouais. Oui. Ou bien celle de Savoie, on est prêts nous aussi à vous accueillir si vous voulez. Parce que effectivement, prendre le temps d'en parler avec d'autres, ça vous permettra certainement, enfin moi je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de vous remettre un peu à distance, de pouvoir peut-être aussi sortir cette colère, et puis voir un petit peu tous les effets que cette révélation a fait en vous, parce que moi aussi je suis persuadée, quand je regarde, que ce qui s'est passé dans les générations qui ont été tues, en fait nous enfants on est sensibles aussi, enfin quand on est proche d'une personne, et parfois ça a des impacts inconnus, et c'est important de pouvoir les faire ressortir. Voilà, il s'agit pas de se prendre la tête et tout, mais vous en parlez, vous savez, vous voyez vous-même que les émotions, vous êtes prise déjà dans la colère. C'est important de pouvoir peut-être en parler avec d'autres personnes et déposer tout ça pour ne serait-ce que aller mieux vous-même. Voilà.
Voilà, Marie, est-ce que vous sentez d'avoir ce courage?
Du coup, voilà, il faudra que je me renseigne sur ces cellules d'écoute avec le diocèse. Voilà, pour voir, c'est pas évident, oui, je pense qu'en tant que personne, pour parler de quelqu'un qui n'était plus là, parce que ça ravive aussi l'absence de la personne, etc. Donc on a envie de mettre tout ça sous un gros tapis, mais voilà, donc ce sera peut-être quelque chose que je ferai effectivement dans les prochains mois, voilà, pour que je laisse le temps de faire, mais oui, merci en tout cas.
Rapprochez-vous du diocèse de Grenoble, en Isère, et je pense qu'ils pourront vraiment vous aider. Eudes Bouvier, le psychothérapeute que vous êtes, comment est-ce qu'il réagit à ce témoignage de Marie? On sent quand même que voilà, ça a été un choc pour elle de lire ces mails.
Bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup de douleur, et je pense qu'on n'avait pas pris conscience de toutes ces victimes collatérales, en fait. Et, tout à l'heure, je parlais des parents, des enfants, des frères, des sœurs. Il y a énormément de douleurs. Ces douleurs, oui, elles peuvent être déposées dans les cellules d'écoute. Hein. On est là pour ça, on est là pour écouter tout le monde. Mais je voudrais dire aussi, à propos de sa maman, qu'on peut aussi comprendre parfois le choix des personnes victimes d'en parler ou de ne pas en parler. Voilà, l'idée, c'est... Vous n'êtes pas obligé de parler ou de venir voir les cellules d'écoute. Si vous le souhaitez, on sera là et on sera à votre écoute. Mais oui, parfois ça crée des secrets de famille, et c'est bien de les lever par la suite. Mais voilà, il faut prendre le temps, et il faut vraiment respecter le choix des personnes victimes. Certaines veulent aller en justice, d'autres ne veulent pas du tout. Certaines veulent parler, mais pas à l'église. Ils disent bon, je veux pas aller dans une cellule d'écoute, hein, c'est encore des cathos, machin. Et ils veulent aller ailleurs, et ils en ont tout à fait le droit. Et puis je crois qu'il faut laisser du temps au temps. On évolue, on a envie de témoigner un moment, et puis c'est trop tôt. Voilà, il faut accepter que de laisser un petit peu de temps ou beaucoup de temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces cellules d'écoute, elles existent et elles existeront encore dans 10 ans. Et si Marie, elle veut rencontrer la cellule d'écoute de son diocèse dans 10 ans, eh ben il y en aura toujours une.
Annick, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de la cellule d'écoute de Savoie. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a des personnes qui sont vraiment formées à l'écoute. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un prêtre qui est là pour écouter ?
Alors non, on n'a pas de prêtre.
Parce que dans certaines
oui,
cellules d'écoute, il y en a. Ouais.
Voilà. On y avait un peu, enfin, d'avoir plutôt quelqu'un qui nous accompagne et tout, mais pour le moment, non. C'est vrai que la Savoie est un diocèse où on manque déjà un petit peu de prêtres. Donc pour le moment, non, on n'a pas de prêtre, mais on est en lien direct plutôt avec l'évêque, et quand on a des grosses difficultés, on sait qu'on peut le joindre très, très facilement, et qu'il nous a dit n'hésitez pas. Les deux évêques étaient comme ça. Voilà. Donc comment on fonctionne ? Eh bien, les personnes qui sont habilitées, qui ont une formation pour l'écoute, elles restent disponibles. Donc quand on a des mails ou des téléphones, la personne qui a le téléphone, parce qu'on a un téléphone qui passe de une fois par mois, c'est quelqu'un qui a la permanence, si vous voulez. Et donc il joint toujours une autre personne pour pouvoir prendre contact avec la personne qui a demandé à être entendue. Voilà. Oui. Et puis nous, on se retrouve donc, depuis 4 ans, on a quasi une réunion tous les mois, sauf l'été. Et puis quand on a notre rencontre, eh bien les ceux qui ont écouté nous expliquent un petit peu ce qui s'est passé. On garde l'intimité, on ne donne pas tous les détails. Et puis, comme on disait, on fait des dossiers sur les personnes qui ont accepté de venir partager ce qu'elles avaient envie de partager. Voilà. Et puis, comme vous disiez, on est en lien avec la conférence des évêques, avec l'INIR. On a du coup, c'est assez intéressant parce qu'ils nous envoient les documents. On a même la possibilité de pouvoir partager à certains moments des rencontres qui se font en visioconférence. Alors ça, c'est pour toutes les cellules de France, hein, voilà. Eudes vous a parlé aussi, donc tout de suite après la création de la cellule d'écoute, il y avait d'autres personnes qui avaient envie aussi de se mettre au service de ces abus et de la prévention. Et donc, il y a une cellule de veille qui existe aussi en Savoie, voilà.
Et qui sert à quoi, la cellule de veille, vraiment ?
Alors, cette cellule de veille, eh ben, elle est là pour rester comme des veilleurs, être attentif à ce que cela ne se reproduise pas. Et donc, elle fait aussi de la formation et de l'information. Donc, surtout de la formation. Et donc, depuis 3 ans, là, c'est pour la 3e année consécutive, ils ont créé une formation qui se passe sur 3 jours, à distance d'une semaine chaque fois. Ce qui fait que les gens ont un moment pour se reprendre. C'est un cycle qui présente un petit peu ce que représentent les abus sexuels.
Oui, il y a des tas de choses. Hein. On parle dans cette formation de justice. Il y a aussi la protection de l'enfance qui est invitée et qui explique comment faire une information préoccupante, par exemple pour un instituteur ou une catéchiste qui voit arriver un gamin avec un bleu ou voilà, ce qu'on appelle les informations préoccupantes, qui peuvent être pour des violences sexuelles, mais aussi pour d'autres violences, hein, psychiques ou physiques. Moi, cette année, je suis intervenu dans cette formation pour parler. Y a-t-il un profil d'auteur et y a-t-il un profil de victime ? Voilà, par exemple, pour vous donner un petit peu les différents thèmes. Il y a aussi toute une partie sur la traumatologie des personnes victimes, et justement pour comprendre pourquoi elles ne témoignent pas forcément tout de suite, pourquoi ça revient des années après, et aussi pour respecter ce choix. Et puis il y a toute une partie d'intervention aussi sur plutôt abus de pouvoir, abus de de conscience, hein, parce que souvent malheureusement ça commence par là, ça commence pas forcément tout de suite par une violence sexuelle.
L'emprise, voilà, dans l'accompagnement
exactement,
spirituel.
Merci. Ça commence par de l'emprise parce que ces pédocriminels, malheureusement souvent c'est des personnes qui présentent bien, qui parlent bien, etc. et qui ont une certaine aura. Donc ça commence par de l'emprise psychique souvent avant malheureusement de qu'il y a les abus.
Est-ce que, alors justement, vous avez déjà pu écouter, accueillir des auteurs d'abus sexuels?
Alors non.
Dans la cellule d'écoute.
Dans notre cellule d'écoute, non. Alors on s'est posé la question, hein, c'est pour ça qu'on est en supervision. Qu'est-ce qu'on fait des auteurs? Alors on se la pose depuis peu de temps, et la conférence des évêques de France se la pose depuis peu de temps. Ce qu'on a décidé, nous, c'est de ne pas recevoir les auteurs. Voilà. Pour pas faire un amalgame. Voilà. Notre priorité, c'est les victimes. On souhaite placer la victime au centre maintenant, au niveau de l'Église. Donc, on écoute les victimes. Maintenant, par ailleurs, moi, en tant que thérapeute, j'ai bien conscience que ces pédocriminels, quelque part ailleurs, mais quelque part, il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut qu'ils puissent parler. Ils sont sous des formes de dépendance. Il faut savoir que certains sont des anciennes victimes. Il faut aussi qu'ils puissent parler de ça. Donc oui, il faut un accompagnement. Il faut surtout pas les laisser dans la nature, hein, vu le risque de récidive. Il leur faut un accompagnement. Ça va, je pense, se mettre en place, mais on en est vraiment aux prémices. Et je dirais, c'est pas grave qu'on en soit qu'aux prémices, parce que notre priorité, c'était les victimes.
Annick, ouais, vous confirmez, c'est un choix.
Oui, c'est un choix, mais c'est intéressant parce que j'ai vu, il se trouve que je suis tombée vendredi sur un article de La Croix et qui parle justement en disant qu'est-ce qu'on fait des auteurs. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que notre nouvel évêque, là, Thibaut Verny, donc on l'a pas présenté, mais qui est donc président du Conseil de prévention et de la lutte contre la pédophilie, et qui est membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs, il a ce souci, parce que effectivement, la Savoie a été aussi concernée par des abus, mais qui se sont passés avant 2005, voilà. Et on se rend bien compte que le prêtre a été condamné, il est sorti de prison, mais après ces prêtres, il faut aussi les accompagner, et c'est pour autant ils ont été agresseurs, mais ils restent quand même des êtres humains, et on a aussi à avoir leur accompagnement et comment les aider à vivre et à ne pas récidiver, certes, mais aussi à vivre avec ce qu'ils ont fait. Voilà.
Eudes Bouvier, vous êtes psychothérapeute. Est-ce que ça a changé votre manière d'exercer, peut-être depuis 2020, d'écouter des personnes victimes ou des proches?
Alors je dirais que non, puisque j'en accompagnais avant, moi, au sein de mon cabinet. Le fait d'accompagner en église, c'est encore une façon différente, parce qu'il y a toutes ces idées derrière de pardon, de péché, enfin se mêlent plein de trucs, de secrets de confession ou je sais quoi. En fait, je me rends compte que ça complexifie encore. Et surtout pour les familles, les frères, les sœurs, les parents, c'est encore plus difficile d'accepter quand il y a un témoignage. Il faut savoir que 85% des abus, ils sont au sein des familles, hein. Et quand un enfant témoigne, même quand il témoigne des fois 10 ans après, en gros, personne le croit ou on veut pas faire d'histoire. Voilà. Mais dans l'Église, il y avait cette idée-là. Oh, mais on va quand même pas dire du mal d'un prêtre ou voilà. Et voilà, je dirais que ça complexifie. Mais sinon, le fond, et si on se replace vraiment du côté des victimes, le problème est vraiment le même.
Donc une cellule qui existe depuis 2020. Est-ce que vous savez à peu près, vous, Annick, combien de victimes vous avez pu écouter, enfin pas vous directement, mais vous avez pu accueillir dans la cellule d'écoute? Est-ce que vous tenez, on va dire, les comptes, si je peux utiliser cette expression?
On tient les comptes, mais je crois que c'est Eudes qui les a. Exactement,
oui,
mais
tout.
Je crois qu'en fait c'est on a eu un groupe de personnes, donc là il y en avait 7-8, et puis il y a eu donc des individuels, mais en fait on a eu peu de... À la limite, on a été même un peu déçus au départ en disant on ne doit pas être bon. Voilà, ouais. Peut-être qu'il y a aussi un problème de communication parce oui. que c'est vrai qu'au début, comme on ne savait pas, on marchait un peu sur des œufs, on ne voulait pas embêter les gens. Donc, ça n'a pas été... Et puis, on a commencé aussi au moment du Covid.
Ah oui,
donc,
en ça 2020, aussi, bah oui.
Voilà,
oui.
Donc, voilà. Mais ce que tout ça, c'était pour dire qu'on n'avait pas eu beaucoup de personnes. Oui,
en fait,
voilà.
on avait l'impression oui, d'avoir, on avait l'impression d'avoir pas tant d'appels que ça. Mais finalement, quand on a repris nos cahiers et les appels, les mails, etc. En fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était quand même relativement régulier. Il y a des gens qui demandent aussi parfois des renseignements. Il y a des gens qui sont des fois un petit peu à côté de la plaque. C'est pas ça, mais c'est qu'ils nous appellent pour des choses qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. Nous, de toute façon, on écoute et on reçoit tout le monde. Mais oui, l'important, c'est pas le nombre, l'important, c'est l'intensité. Ouais. Et on a reçu, par exemple, tout un groupe d'hommes d'un ancien pensionnat catholique qui ont vécu là des violences physiques, non sexuelles, mais enfin des quasi-tortures. Hein. Donc c'est quand même, faut prendre le temps pour écouter ça. Et on a écouté le groupe, puis chaque personne un par un, et on les suit encore. Ça arrive que parfois ils nous recontactent pour qu'on puisse encore les écouter, même s'ils l'ont déjà été, même s'ils ont rencontré l'ancien évêque, le nouveau. Voilà, on voit que ça prend du temps. Une blessure, ça cicatrise pas du jour au lendemain. Il faut vraiment du temps. Mmh. Voilà. Et effectivement, niveau communication, peut-être que c'est oui. bien qu'aujourd'hui dans la radio, les radios comme les vôtres en parlent, etc.
On
n'est pas forcément très très compétent en communication. On avait mis des affiches dans les églises, mais voilà, ça c'est toujours à renouveler. C'est toujours. Moi, je crois que la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Et voilà, si des gens peuvent vous appeler en disant voilà, moi j'ai été reçu, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, mais en tout cas j'ai pu être reçu. C'est vraiment le bouche à oreille qui est important.
Ouais, Annick, alors moi je vous avoue que ça a été un peu compliqué de monter cette émission parce que pas beaucoup de réponses. J'en ai eu et je remercie vraiment celles et ceux qui ont pu répondre, mais ça n'a pas été un grand succès pour avoir des réponses pour faire cette émission. Est-ce que vous vous sentez, vous, qu'il y a quand même ce vrai besoin de vous faire connaître un peu plus?
Ben oui, moi c'est vrai que l'autre jour, quand on a vu votre appel, votre mail, et que ça faisait un moment qu'on se disait qu'on voulait refaire notre affiche de cellule d'écoute parce que on pense qu'elle n'est pas assez parlante, et puis en plus, comme on l'a mis déjà depuis il y a 3 ans, il faut qu'on renouvelle, voilà. Moi j'ai dit à eux, on y va, on va lui demander, et puis nous on pensait que c'était dans 15 jours.
Ah oui, ben non.
Voilà. Et quand vous nous avez dit qu'il y avait une dizaine de personnes, on a été étonnés. Bon, après c'est vrai que beaucoup de gens sont super occupés, hein, oh voilà. Oui. Donc pour être disponible, c'est pas simple. Nous, il y a eu cette heureuse coïncidence, et puis voilà, ça fait, on est tout à fait dans l'humilité et tout. On est une petite cellule et tout, mais on essaye de notre mieux d'aider les personnes qui ont besoin d'être écoutées, et puis de faire aussi qu'on se dit que ça libère la parole et que plus on parlera de ce sujet qui est délicat et douloureux, et plus je pense que c'est une grosse partie aussi de lutter contre la pédophilie et les abus sexuels ou bien spirituels et voilà, en prise.
Est-ce que des auditeurs du diocèse de Savoie, donc vers Chambéry, peuvent vous rejoindre en tant que bénévole dans la cellule d'écoute ou ce n'est pas... Vous êtes au complet déjà, Annick?
Alors, pour le moment, on est déjà une équipe de 7. Dans la prévention, ils sont aussi 6. Et partout, quand on regarde ailleurs, il y a plutôt des équipes de 3-4.
Ah oui.
Voilà. Donc là, en fait, on attend parce que notre évêque n'a pas eu le temps. Il a sans doute il a envie de voir. Et puis, ça bouge beaucoup dans l'église et tout. Donc, pour le moment, s'il y a des personnes, elles peuvent quand même se manifester. Parce que moi, par exemple, ça fait un moment et j'aurais envie de me mettre en retrait parce que ça vous brasse aussi tous ces sujets et donc de temps en temps et donc j'avoue que moi je voudrais être remplacée, mais il y a des personnes et puis peut-être aussi que la jeunesse arrive, voilà, parce que donc les personnes qui se sont mis en route, donc c'est pas que je pense que les anciens ont beaucoup de voilà, on a de la disponibilité et tout, mais on a besoin aussi que les jeunes s'emparent aussi de ces sujets, voilà.
On arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Alors ce n'est pas fini, puisqu'on va tout de suite retrouver notre chroniqueuse. Et comme tous les lundis, on parle de la petite enfance avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée et avec Hélène Brunel ce matin. Bonjour Hélène.
Bonjour Melchior.
Vous êtes orthophoniste et coordinatrice au sein de l'association Mille et un mots. Et dans cette association, vous aidez les parents à faire grandir le langage de leur enfant. Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce que les parents peuvent vraiment mettre en place pour mieux aider leur enfant?
Eh bien, tout tourne toujours autour de cette passionnante question qui est comment l'enfant apprend à parler? Ou plutôt, comment il apprend à communiquer avec son entourage? D'abord par des sons et des gestes, puis progressivement en parlant. Et qu'est-ce qui favorise cet apprentissage? Ça, c'est une grande question qui a intéressé de nombreux chercheurs, et notamment Jérôme Brunner. Brunner, c'est un psychologue et un chercheur américain à qui on doit plein de choses, mais qui a notamment étudié ce qui est à l'origine du développement de la communication chez l'enfant. Il a analysé directement des échanges entre parents et enfants, et il en a tiré un modèle de situation. Les situations qui, selon lui, favorisent le plus l'apprentissage du langage, des sortes de super situations qu'il a appelées des formats d'interaction.
Alors, super situation, qu'est-ce que vous entendez par là?
Brunner parle de situations parfaites pour l'enfant pour apprendre à parler, parce qu'elles sont à la fois stables et modulables. Elles sont stables, donc c'est un contexte habituel, familier, et ça permet à l'enfant de se sentir en confiance, d'avoir des repères, et donc de pouvoir plus facilement interpréter, comprendre, intégrer les modèles langagiers qui sont répétés. Et c'est modulable, ça veut dire qu'on adapte naturellement le modèle langagier qu'on donne à l'enfant dans ces situations. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est souvent des situations fonctionnelles, ludiques, donc qui attirent l'intérêt de l'enfant avec du plaisir partagé, ce qui est très très important pour l'apprentissage.
J'ai perdu ma question. Il faut donc que les parents puissent créer vraiment dans leur maison ce genre de situation idéale pour apprendre à parler, en fait, Hélène.
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à créer. Parce que ces structures interactives répétées et stables, on les trouve tout simplement dans nos routines quotidiennes, comme le bain, le repas, le coucher, mais aussi comme lire un livre d'images, jouer à coucou caché. En fait, ce que Brunner nous dit, c'est que les meilleures stimulations qu'on peut imaginer pour apprendre à parler, c'est ces situations du quotidien, du repas, du bain, du change, parce qu'elles sont répétées et stables. Elles permettent à l'enfant de recevoir des modèles langagiers répétés et de les comprendre. Et on le sait, l'enfant retient ce qui est répété, parce qu'il est mieux. Et parce qu'elles sont maniables, elles permettent à l'adulte d'adapter ce qu'il dit en fonction de la façon dont l'enfant réagit et en fonction de son niveau de langage. Par exemple, dans le bain, avec un enfant tout petit, le parent peut attirer l'attention de son enfant sur un canard en faisant des bruits, des gestes. Oh, regarde ! Et quand l'enfant va pointer le canard, plus tard, le parent va répondre « Oh, c'est ton canard !» Et quand l'enfant sera encore plus grand et qu'il dira « canard », le parent va répondre « Oui, c'est ton canard ! Il nage le canard ! » Et c'est pareil avec un livre, par exemple. On va d'abord attirer l'attention de l'enfant sur une image. Plus tard, quand il montre l'image, on va la nommer. Après, quand il la nomme, on va répondre en faisant des phrases. Et chez Mille et un mots, on part de ces situations du quotidien pour aider le parent à y mettre plus de langage.
Et ça explique aussi tout l'intérêt de passer par les parents pour éveiller le langage des tout-petits. Et ils sont au quotidien avec leur enfant. Merci beaucoup Hélène pour ces éclairages. Et à très bientôt, on peut se rendre sur le site milletunmots.org pour en savoir beaucoup plus. Bon bah voilà, Annick, je ne sais pas si ça vous inspire d'avoir entendu tout ça pour vos petits-enfants. Je ne sais pas si vous en avez.
Oui, mais ils sont déjà grands, j'en ai 13. Mais effectivement, la répétition des choses, le quotidien permet effectivement... Effectivement, moi, j'ai été très sensible quand elle disait les gestes répétés, ça donne une stabilité, ça donne une stimulation. Oui.
Bon, voilà. Parfait. Allez, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Annick Vanstivendal et Eudes Bouvier d'avoir été avec nous. Merci vraiment à tous les deux, membres tous les deux de la cellule d'écoute de Savoie, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site catholique-savoie.fr. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour aller sur la cellule d'écoute. Eudes, merci. Merci à Anne-Charlotte également à la réalisation, à Nathan et Catherine. C'est déjà la fin, je pense, donc j'agis, ça passe très très vite. On va se retrouver demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis en compagnie d'Anne Kerléo. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. Si vous avez Facebook, c'est très simple, vous tapez Je pense donc j'agis, vous allez tomber sur le groupe de l'émission, vous pouvez le rejoindre et à l'intérieur vous avez les messages des auditeurs, vous pouvez également partager les vôtres. qu'on va lire ensuite en direct. Donc voilà, n'hésitez pas. Le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Vous pouvez le partager également à vos proches. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain.